Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec M. Bourgès Monory pour évoquer l'actualité européenne, qui est, disons, à la fois traditionnelle, mais en même temps assez riche. Et alors, au lendemain des festivités concernant Verdun, festivités si j'ose dire, il y a quand même quelque chose qui évolue dans la prise de conscience des relations internationales, puisqu'on a vu à Verdun, pour le 100e anniversaire d'une bataille qui a fait des milliers de morts, on a vu la chancelière allemande aux côtés du président français. Alors, ça n'est pas une innovation, mais c'est quelque chose qui se poursuit. Et alors, on peut se dire qu'après tout, si entre France et Allemagne, qui sont quand même une partie de la colonne vertébrale de l'Europe, on a été capable de construire ensemble, eh bien, pourquoi pas avec les autres? Donc, c'est un peu d'optimisme, dirons-nous.
Oui, c'est effectivement un geste symbolique. Tout le monde se souvient évidemment de la main prise l'un l'autre entre Helmut Kohl et Mitterrand, François
Mitterrand. Qui était en plus de partis différents. Et de...
Qui était tout à fait de coloration différente. Et donc il y a à la fois, à travers ce geste symbolique, un rappel quand même aux fondamentaux de l'Europe. Alors, actuellement, on sait que l'Europe ne va pas très bien, pour parler franchement. Et ce que l'on espère, c'est qu'on puisse rebondir pour dépasser tout ce qui font que l'Europe, qui, selon les pères fondateurs, était un message de paix, évidemment, mais aussi un message de prospérité, d'entente, de développement du continent européen. Et actuellement, on a abordé ce sujet à travers d'autres émissions antérieures, mais il faut quand même le rappeler, il y a un repli national qui est mortel, tout simplement, il faut le dire, par rapport aux objectifs d'origine. Et c'est d'autant plus inquiétant que on nous dit que, en tout cas certains, ceux qui prônent ce repli, prétendent que nous irions mieux au niveau de nos pays. Alors, on a le cas concret du Brexit, c'est-à-dire de ce référendum en Grande-Bretagne qui se tiendra le 23 juin prochain, où il y a là des partisans pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et l'on sait, d'après toute une série d'études, dans le cas du Royaume-Uni, c'est ce pays-là qui serait le plus perdant. Mais si on transpose au niveau de nos autres pays, eh bien, il est clair que la France toute seule, qu'est-ce qu'elle représenterait dans un monde actuellement globalisé, mondialisé? C'est un rêve de croire qu'un pays seul, à moins qu'il soit à la dimension d'un continent comme les États-Unis d'Amérique ou de la Chine d'un autre côté, puisse véritablement peser au niveau tant commercial que dans tous les autres types de relations interétatiques. Et donc on se rend bien compte que chacun de nos 28 pays de l'Union européenne, pris séparément, ne représente quasiment rien. Or c'est un paradoxe extraordinaire de savoir que l'Europe en tant que telle, avec 500 millions d'habitants, première puissance commerciale du monde, n'arrive même pas à se mettre d'accord actuellement dans un certain nombre de sujets et au contraire sont là à se critiquer les uns les autres. Et là, il y a quelque chose qui est à la fois...
C'est un peu dérisoire.
À la fois dérisoire, mais même pas compréhensible compte tenu des enjeux. Donc on se demande qu'est-ce qu'il faut pour éclairer nos politiques, nos représentants et aussi les citoyens pour remarquer que l'Europe, ce n'est pas un problème, mais au contraire une solution.
Alors, je crois qu'on ne peut pas non plus constamment dire « l'Europe, c'est la solution », mais je crois qu'il faut peut-être revoir de façon un peu concrète, parce que...
En tout cas, une certaine Europe, excusez-moi de reprendre, parce que en disant « l'Europe, c'est la solution », à condition évidemment qu'il y ait des aménagements au niveau de l'organisation de cette Europe-là.
Parce que cette Europe-là, elle paraît être une usine à gaz à laquelle les gens comprennent peu de choses. Alors qu'en fait, quand on voit les jeunes, et aux commémorations de Verdun qui avaient lieu donc, ce week-end, on voyait donc, tous ces jeunes dévaler quand même entre les tombes, on a l'impression que là, il y avait quand même quelque chose de très fort et un signal très fort qu'on a oublié, parce que c'est vrai que la génération qui a connu la guerre ou qui en a entendu parler par les témoins directs, même la seconde, elle est âgée maintenant. Donc l'Europe pour les jeunes, c'est autre chose, d'autant plus que depuis, on est dans un monde complètement mondialisé et que même si demain il n'y avait plus d'Europe, alors faisons de l'histoire fiction ou de la prospective fiction, s'il n'y a plus d'Europe, il y a quand même des multinationales, il y a quand même des entreprises qui sont internationales, il y a une telle imbrication des économies, une telle imbrication pour les entreprises, qu'on voit mal comment cela pourrait renforcer le politique. Donc j'ai l'impression aussi que là, quel que soit le point vers lequel on se tourne, en fait, il faut ajuster un peu la direction pour repérer que peut-être l'Europe, c'est la solution, mais qu'en tout cas, nous ne pouvons pas revenir en arrière, faire que la communication ne marche pas, faire qu'il n'y a pas Internet, faire que la mondialisation, c'est un fait. Donc, bien obligé de tenir compte de l'Europe. Ou en tout cas, bien obligé de tenir compte des autres, parce que je crois que derrière cette méfiance vis-à-vis de l'Europe, c'est la méfiance vis-à-vis de l'autre et des autres. Et alors pour ça, on peut aussi être optimiste. Alors aujourd'hui, je vais commencer par l'optimisme. En Autriche.
Alors en Autriche, eh bien, comme si on a suivi l'actualité, il y a eu l'élection du président de la République autrichienne, et c'était une élection extrêmement serrée, avec un représentant de l'extrême droite, et un écologiste, et finalement c'est l'écologiste qui a remporté le scrutin, mais avec un très très faible score de majorité. Mais il y a un double enseignement en quelque sorte, c'est que d'une part le repli national, là aussi on en parlait il y a un instant, eh bien pose problème, et ce que l'extrême droite autrichienne réclamait à tort et à cri, c'était de s'isoler, de mettre des murs partout où elle pouvait sur ses frontières. Et donc ce message-là, il y a quand même plus de la moitié de la population autrichienne qui finalement a dit non. Mais l'autre message, donc ça c'est assez réconfortant, mais comme la majorité est si faible, eh bien il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a que ce vote massif quand même pour l'extrême droite est quelque chose qui nous renvoie à certaines réflexions pour essayer de tenter d'expliquer aux citoyens qui ont choisi cette voie-là qu'ils se trompent et que ce n'est même pas leur intérêt. Alors par ailleurs, ce qui est le côté positif, c'est que finalement, c'est quand même, dirons-nous, la raison qui l'a emporté. Donc voilà au moins quelque chose de positif.
Intéressant, parce que la raison qui l'a emporté, c'est, me semble-t-il, les personnes qui ont voté par correspondance. Donc des gens qui sont si intéressés à la destinée du pays qu'ils ont pris le temps, le moment, faire des démarches pour voter par correspondance. Donc déjà, des citoyens qui se sentaient engagés. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'en fait, les partis traditionnels ont été éliminés. C'est-à-dire que ceux qui font de la politique un métier, ceux qui pensent quelquefois... Alors, je n'ose pas dire que les gens des grands partis, ce sont des gens qui viennent pour se servir, au lieu de servir leurs élus et la population. Mais il y a quelque chose d'intéressant à voir que, d'un côté, il y a un vote protestataire, quand même, le vote de droite ou d'extrême droite, en France aussi, c'est aussi un vote qui rassemble tous les protestataires. Protestataires de tous bords, unissez-vous, et voilà. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que ça peut amener les partis à essayer de repérer, à être en prise avec la réalité, avec le terrain, avec les personnes, et non pas à être simplement dans leur schéma tout fait.
Vous avez tout à fait raison de souligner cela. Et puis, il y a même un autre élément, moi, qui m'a aussi interpellé, c'est que le fait que ce soit les citoyens autrichiens de l'étranger qui ont fait basculer le vote, en tout cas par le nombre de voix qu'ils représentaient, en faveur de la tradition d'une Autriche intégrée au sein de l'Union européenne, eh bien, c'est que, pour nous, c'est aussi une leçon, c'est que, vu de l'extérieur du pays, et sinon même vu en dehors de l'Europe, eh bien, on se rend mieux compte de l'intérêt que représente cette Europe-là. Et on voit mieux que le pays tout seul, eh bien, ce n'est pas l'avenir, en tout cas tel qu'il est tracé, de cette manière-là. Donc je crois que c'est vraiment très intéressant ce vote, et ça doit nous servir de leçon et aussi de réflexion pour la suite des événements, et notamment lorsque l'on sait que l'on va aborder l'année prochaine, tant d'ailleurs en France qu'en Allemagne, on parlait de la France et de l'Allemagne à travers Verdun, à travers le renouvellement des scrutins, en tout cas de la présidence, à la fois du côté de la chancellerie en Allemagne et du côté de la présidence de la République en France.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre ce dialogue sur l'Europe. Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Bienvenue en Europe. Et donc, après cette réflexion sur quelques aspects de l'actualité européenne, parlons un peu des problèmes. Alors, les problèmes qui demeurent, c'est d'une part les réfugiés, on va en parler. Et puis d'autre part, au niveau des relations internationales, il y a eu le G7 au Japon. Mais là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque quand on regarde le site de la Commission européenne, eh bien, on voit que M. Tusk, le président de l'Europe, et puis M. Juncker...
Du Conseil européen.
Du Conseil européen, M. Juncker. Mais Monsieur Tusk...
Non, Tusk du Conseil européen, pardon, excusez-moi.
tous les deux sont allés pour représenter l'Europe, mais ils étaient aux côtés de Angela Merkel, Hollande, Cameron. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal, au niveau de nos chefs d'État et chefs de gouvernement, à se dessaisir d'un certain nombre de choses pour reconnaître, justement, l'Europe. Alors que c'est quand même bien aussi souvent... maintenant sous l'influence européenne, que les choses avancent. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes, maintenant, font appel des décisions de justice qui les concernent auprès du Conseil de l'Europe, auprès des institutions européennes. Donc on a à la fois une certaine défiance vis-à-vis de l'Europe, mais aussi un certain recours. Et ça, c'est assez intéressant de la part des citoyens.
Oui,
donc finalement, l'idée d'Europe avance.
Tout à fait. Et il y a, sur le plan de la... de la jurisprudence, il y a toute une série de choses qui ont été actées au fil du temps. Vous parliez du Conseil de l'Europe, là aussi il y a en dehors de l'Union européenne le Conseil de l'Europe qui légifère c'est souvent intéressant, et au niveau de l'Union européenne il y a la Cour de justice qui est située à Luxembourg, la Cour de justice européenne qui donne son point de vue et qui fait avancer les choses, mais aussi qui est au-dessus de la jurisprudence dimension juridique de chacun des pays. Et donc ceci est tout à fait important, et dans la plupart, parce que je vois... Par exemple, on critique l'Europe en disant « oui, mais elle s'intéresse à des petits détails de produits, de la dimension de ou la couleur des bananes ou de je ne sais quoi ». Mais il faut voir que tout cela, c'est ça, c'est l'échelon local, national, qui remonte au niveau européen. Parce que puisqu'on communique les uns avec les autres au niveau commercial, il faut bien qu'il y ait dans nos échanges des règles communes et qu'il y ait une concurrence loyale entre les uns et les autres. Donc, pour ce faire, eh bien, il y a notamment les représentants des producteurs, les représentants des consommateurs, les institutions nationales et européennes qui se mettent autour d'une table. Et il y a d'ailleurs chaque jour à Bruxelles des centaines de réunions qui se tiennent entre experts pour essayer de se mettre d'accord, de trouver un terrain commun, par exemple, sur tel ou tel produit ou telle chose. Alors, évidemment, parfois, alors après, la Commission européenne, qui, elle, a le pouvoir, selon les traités, non pas de décider, elle décide, évidemment, mais elle décide sur base de l'accord des États au sein du Conseil et du Parlement européen, qui représente les citoyens directement, mais elle prend en compte tout ce qui remonte du local, national, jusqu'à elle, pour proposer des législations ou des normes, etc. Et donc, même au niveau des lobbyistes, qui sont souvent critiqués, on dit « Ah, mais c'était épouvantable ».
Il y en a 800 quand même, reconnus.
Il y en a 800 qui sont enregistrés auprès de la Commission européenne. C'est à peu près le même nombre au niveau qui sont reconnus auprès du Parlement européen, pour savoir qui fait quoi, et que quelqu'un qui veut influencer, entre guillemets, des décisions ou des propositions, et bien que l'on sache d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente. Mais ça, c'est la logique même qui existe au niveau national. Au niveau national, un gouvernement prend des dispositions, il est rare qu'il les prenne simplement en ayant tout d'un coup une inspiration la nuit parce que tel ministre a pensé à telle ou telle chose. Il y a généralement quand même, espérons-le, quand même au niveau national.
On a le syndicaliste, on a tout un tas de
il y a des comités d'experts qui se réunissent et qui travaillent là-dessus. Donc, au niveau européen, je dirais que la transparence est même plus importante et même beaucoup plus importante qu'au niveau national, et que tout se fait dans la transparence. Et là encore, il faut dénoncer ceux qui propagent des fausses informations prétendant le contraire.
On peut rappeler aussi d'ailleurs que si 1 million de citoyens de 8 pays différents ont des idées intéressantes, la Commission est obligée de tenir compte des avis qui ont été ainsi proposés. Donc c'est quand même là aussi un gage de démocratie. Je trouvais aussi intéressant de voir qu'au G7, au Japon, la Commission européenne donc était bien représentée, puisque par les pays et par les structures européennes elles-mêmes, mais là, on a évoqué des dispositions pour réduire les écarts de fiscalité. Enfin, c'est-à-dire que ce que demandent les citoyens est entendu. Et dans, je cite, « les dirigeants ont appelé de leur vœu une mise en œuvre rapide des engagements pris dans le cadre du G20 et de l'OCDE, notamment sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices, l'échange automatique d'informations et les pays et territoires non coopératifs. » Donc on voit que finalement ce qui est demandé mais qu'on n'ose pas toujours faire dans les pays, là, on le fait alors de façon très curieuse, parce que la base imposable fiche le camp, que chacun essaie de se défiler pour aller dans un pays où on paie moins d'impôts, mais aussi parce que maintenant, les citoyens font des ménages. Les entreprises, elles ont déménagé depuis longtemps et elles sont à la Barbade ou dans quelques îles extraordinairement protégées. Donc on voit que là, devant cette réalité, la matière fiscale fiche le camp, nos hommes politiques, réagissent.
Oui, par la force des choses, c'est un mal, il y a un bien, on dit souvent cela. Effectivement, du fait que la fiscalité, il y a des failles dans les fiscalités nationales, eh bien, y compris au niveau des grands ensembles comme les États-Unis, eh bien, tout d'un coup, il y a une réaction face au laxisme des années antérieures. Ceci, quand même, doit nous ramener au niveau de la construction européenne à ce qui fait encore largement défaut, c'est-à-dire que avec l'euro, il y aurait normalement, il aurait dû s'accompagner du fait que dans la zone euro, le développement de l'industrie, du commerce, etc., aurait dû vraiment s'élargir, aller vraiment croître
à tous les pays,
et pas uniquement à 19. Mais on sait qu'il y a un défaut au départ de la naissance, puisqu'il y a eu l'euro, mais en oubliant un pan qui était
le plan
économique, puisqu'il manque largement sur ce plan-là. Mais surtout, il y a il n'y a pas une fiscalité commune, donc la concurrence n'est pas exactement la même entre les différents pays. C'est bien ce que l'on reproche actuellement à l'Allemagne, d'être à la fois le premier commerçant au sein de l'Europe, mais et aussi le principal producteur. Mais du fait que les charges dans un pays sont différentes de celles d'un autre, eh bien, pour l'instant, ça a joué en faveur de l'Allemagne. Et tant mieux pour l'Allemagne. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu que ce soit un ensemble. Et là, c'est la faute non pas à l'Allemagne qui aurait empêché cela, à ses partenaires, mais aux autres qui n'ont pas joué le rôle d'aller vers une harmonisation des règles. Et donc il nous manque toujours, à l'heure actuelle, une fiscalité commune, un budget commun pour aller vers une sorte de pré-État fédéral, parce que c'est notre intérêt à tous d'être sur un pied d'égalité. Or cette égalité-là ne peut profiter qu'un maximum à tout le monde, alors que précisément dans le cadre actuel, dans cette dimension actuelle, ce sont les États qui ont repris en quelque sorte ce qui se passait au niveau européen, c'est ce que l'on appelle l'approche intergouvernementale et non pas l'approche communautaire. Et à travers cela, eh bien, on voit les dégâts à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est vraiment dommage.
Enfin bon, de toute façon, c'est un fait. Donc voilà, soyons réalistes. Mais là aussi, il y a des réalités qui nous rattrapent. Et notamment la gestion des réfugiés. Et là, on a vu, par exemple, des dispositions européennes prises. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a dit, puisque la Turquie veut bien accepter de jouer ce rôle, eh bien, on va favoriser les visas des ressortissants turcs en mesure de la démocratisation de la Turquie. Or, on vient de voir récemment que c'est pas du tout un processus de démocratisation, mais qu'on a un gouvernement, au contraire, qui a été de plus en plus autoritaire en Turquie. Donc là, il y a aussi une contradiction. Et là, je pense que c'est aussi devant ces contradictions entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je fais, et lorsque on dit et on ne fait pas, c'est peut-être cela que les Européens reprochent à leurs hommes politiques. Et là aussi, peut-être faut-il balayer devant notre porte avant de critiquer. Alors, ceci dit,
juste un mot sur ces... Oui, parce qu'il y a une relation avec les réfugiés, mais quand même, on peut le dire, parce qu'on peut dire aussi ce que l'on pense, heureusement, sur cette radio, c'est que cet accord avec la Turquie est quand même un accord assez humiliant pour l'Europe et assez honteux. C'est simplement, cet accord existe parce qu'on a été incapable de mettre en place une politique migratoire au niveau européen. C'est chacun pour soi passé. Et la France également est mal placée pour donner des leçons à cet égard, ce qui est vraiment là aussi très dommage. Alors il y a les Grecs. Alors on savait déjà que le régime turc n'était quand même pas tout à fait blanc comme neige, si l'on puisse s'exprimer ainsi, par rapport à nos critères de démocratie traditionnels au niveau de l'Union européenne.
Oui, notamment pour les femmes.
Il faut qu'elles restent à la maison, elles n'ont pas droit à la contraception, etc. etc. Sur le plan de la liberté de la presse, on sait ce qu'il en est. Elle est quasi inexistante en Turquie. Simplement, alors, pour faire le lien avec la Grèce, juste une seconde, pour dire que de l'autre côté, il y a la Grèce en première ligne. Et là aussi, on a abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais simplement disons qu'au niveau de l'actualité, on a remis une rallonge de plus de 10 milliards. Il y a eu un accord au sein de l'Union pour procéder ainsi. Et donc la dette grecque continue à exister, mais elle est financée.
Alors la dette grecque est financée, mais c'est vrai aussi que pour les réfugiés, là aussi, on perçoit aujourd'hui, notamment en fonction du G7 qui s'est tenu donc au Japon, à Izeshami, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que la question des réfugiés, c'est plus simplement la question des réfugiés politiques, c'est-à-dire là où il y a la guerre, mais il y a de plus en plus de réfugiés dans des crises africaines, mais aussi des réfugiés climatiques. Donc on voit par exemple que sur le plan international, eh bien, on décide que quand il y aura des investissements, on fera en sorte que les investissements pour l'équipement tiennent compte du climat. Donc on voit aussi que nos opinions publiques évoluent et que ce ne sont pas les hommes politiques d'abord qui font évoluer l'opinion publique, mais ce sont les opinions publiques, donc les citoyens, donc nous-mêmes, qui rendent obligatoire la prise en compte de leurs demandes. Et ça me paraît intéressant dans cet univers où quelquefois on a envie de douter de la démocratie. Eh bien, on perçoit que ce que l'opinion publique réclame, les courants de fonds qui se présentent sont pris en compte.
Tout à fait. Et là, on peut, comme on est sur une radio chrétienne, rappeler que le pape François, précisément, a rappelé qu'au niveau européen, eh bien, il fallait revenir à un certain humanisme. Et donc, il a milité pour la construction européenne, précisément dans cette dimension-là, notamment par rapport au problème des réfugiés. Et au niveau des réfugiés, rappelons simplement en un mot qu'il faut bien faire la distinction entre les demandeurs d'asile et les réfugiés à caractère économique. Alors, les deux se rejoignent sur nos frontières, mais c'est là où l'Europe doit vraiment se prendre à bras le corps cette question, parce qu'il n'est quand même pas normal que, vu sa dimension, eh bien, qu'on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, qui sont malgré tout très importants, mais par rapport à un continent tel que le nôtre, avec 500 millions d'habitants, et avec la richesse qui est la nôtre, qu'on n'arrive pas à régler ces problèmes-là. C'est simplement une question de volonté, et évidemment, au niveau politique, il faut qu'elle se traduise par des actes.
Par ailleurs, disons, bon, si on exclut les réfugiés économiques, mais moi je me dis, après tout, pourquoi ne pas permettre aussi à d'autres qu'aux Européens ou à ceux qui ont eu la chance de naître ici, pourquoi ne pas permettre que le développement économique soit celui de tous les hommes ? Je vois aussi que vous avez apporté des livres, donc ce serait intéressant peut-être de présenter ces livres à nos auditeurs pour le petit moment qui nous reste.
Oui, alors pour ceux qui sont intéressés par les questions européennes, comme évidemment nous l'espérons tous, eh bien, signalons trois ouvrages qui viennent de sortir. Alors il y en a un consacré à Jacques Delors, c'est évidemment quelqu'un qui m'est cher parce que j'ai travaillé avec lui autrefois. Le titre c'est « L'homme qui ne voulait pas être roi », c'est publié chez Grasset. Et donc c'est des conversations autour de ce qu'il a fait, et notamment de l'Europe.
Et alors là quand même, l'actualité européenne.
L'actualité directement européenne aussi, avec deux parlementaires européens. Une Française, Sylvie Goulard, « Goodbye Europe », qui vient de sortir chez Flammarion, et donc est également très intéressant.
Sylvie Goulard est très engagée.
Très engagée. Je ne m'étends pas, puisque notre temps d'antenne s'achève, mais en tout cas un autre de ses collègues au niveau européen, Guy Verhofstadt, « Le mal européen », avec préface de Daniel Cohn-Bendit, et qui sort chez Plon. Guy Verhofstadt est l'ancien Premier ministre de Belgique pendant 9 ans, et c'est un Européen très engagé, très convaincu, et qui milite pour une Europe fédérale.
Eh bien à tous, je dis bonne semaine à tous, au revoir.